Nous allons poursuivre par notre sujet principal, qui va porter sur l'édition et la retouche d'images, le dessin vectoriel avec les logiciels GIMP et Inkscape, mais également la vie des projets. Alors nos invités, Marc Jean Bougin, ingénieur de recherche à Télécom Paris et contributeur au projet Inkscape. Bonjour Marc.
Bonjour.
Et à distance, Géant Pagès, développeur principal de GIMP et bénévole associatif Lila et The Marmotte, dont on parlera tout à l'heure. Bonjour Géant.
Bonjour.
Super, tout le monde est là, donc ça marche très bien, sachant que pour vous donner un petit peu les coulisses de l'émission, nous avons réglé le problème technique à 15h29 minutes et quelques secondes. Donc on va parler, le sujet va être un petit peu découpé en deux parties, en tout cas peut-être pas forcément égales, mais en tout cas une première partie où on va parler un petit peu des logiciels, de ce qu'ils font pour que les personnes qui nous écoutent découvrent ces deux logiciels. Et on va aussi parler de la vie des projets, parce qu'évidemment dans le monde du logiciel libre, il y a une vie de projet, il y a une gouvernance, il y a des questions de financement. Donc voilà un petit peu les deux grandes thématiques, mais une première question déjà, mais une présentation personnelle, je vais vous demander simplement de vous présenter de façon succincte. On va commencer par Géant.
Oui, bonjour encore. Alors bon, donc je m'appelle Géant, je suis le développeur principal de GIMP, le mainteneur même depuis un an. Voilà, alors donc je fais ça dans le cadre, comme GIMP est un logiciel communautaire, hein, le développement c'est volontaire. Et donc moi c'est dans le cadre d'un projet de film d'animation dans une production associative qui s'appelle Lila. Et dans ce contexte-là, on fait un film et moi je fais la partie logiciel, développement. Donc j'améliore GIMP, je le rends stable, donc je corrige les bugs et puis j'ajoute des fonctionnalités aux besoins, etc. Voilà, c'est moi en tout cas en rapport avec GIMP.
D'accord. On va rentrer dans le détail de tes contributions évidemment dans le cours de l'émission. Marc Jean Bougin.
Moi je suis employé je suis ingénieur de recherche à Télécom Paris, qui est une école d'ingénieurs sur le plateau de Saclay, qui est spécialisée dans les questions du numérique. Et j'étais déjà engagé depuis assez longtemps dans le projet Inkscape, et là je suis engagé notamment parce que mon employeur me permet de passer une partie de mon temps sur le projet Inkscape, partie de mon temps de travail, ce qui est assez pratique. Et donc dans le projet, un petit peu comme Géant, je m'occupe de pas mal de questions de code, de bugs, de review et d'animation de la communauté. Notamment, j'essaye de gérer notamment les releases du logiciel, donc les sorties du logiciel. Des différentes versions, on va probablement en reparler. Et notamment, plutôt spécialisé dans les questions autour du développement lui-même, des questions de code, parce qu'on a plusieurs équipes qui s'occupent de différentes choses, on y reviendra.
Voilà. D'accord. Ok, écoutez, merci tous les deux. Donc on va commencer déjà par on va parler un petit peu de ce que font ces logiciels, parce que les personnes qui nous écoutent ne les connaissent pas forcément, hein, donc deux logiciels qui ont des fonctionnalités différentes. Alors une première question générale, d'essayer de présenter dans les grandes lignes les principales fonctionnalités de ces deux logiciels. On va commencer par GIMP avec Géant.
Oui, alors donc GIMP c'est ce qu'on appelle un logiciel de graphisme raster. Ou bitmap, donc ce sera vous pourrez voir avec Inkscape c'est différent, Inkscape c'est vectoriel, donc BIM c'est tout est des matrices de pixels, et donc c'est dans ce contexte de, alors en gros c'est similaire à Photoshop, c'est pas un clone, hein, comme certains nous le disent, c'est pas le but, mais c'est dans la même catégorie. C'est donc on modifie, alors ce qui fait que c'est beaucoup utilisé par les photographes par exemple, parce qu'en photographie on travaille avec des pixels, on travaille avec ensuite dans l'illustration aussi, puisqu'on fait aussi de l'illustration raster. Alors il y a certains qui font de l'illustration avec plutôt type vectoriel, surtout si c'est des trucs plus simples, mais ce qui va plus se rapprocher, on va dire, d'un style physique, ce sera ce type de logiciel. Voilà.
D'accord. Alors Marc, sur Inkscape, pareil, les grandes fonctionnalités.
Du coup, Inkscape, donc contrairement à GIMP, c'est plutôt un éditeur vectoriel, ce qui veut dire que, en fait, la différence avec les images qui sont comme les photos composées de pixels, c'est qu'une image vectorielle, en fait, elle est définie à partir de courbes et de définitions mathématiques. Par exemple, un cercle, c'est pas l'ensemble des pixels qu'il y a sur le cercle, c'est défini par un centre et un rayon, et du coup, ça permet d'avoir un résultat qui ne dépend pas du zoom qu'on a sur l'image. Et donc, Inkscape, c'est un logiciel qui est centré autour de ça.
D'accord. Alors, j'ai juste précisé, parce que ça, j'ai oublié, que vous pouvez participer à cette conversation pour réagir et poser des questions sur le salon web de la radio. Vous allez tout simplement sur causecommune.fm, bouton de chat, et salon libre à vous. Vous allez sur le site libreavous.org. Je le précise parce qu'en fait, Marc vient de me mettre un message sur un autre salon, donc je surveille plusieurs salons à la fois. En tout cas, n'hésitez pas à participer. Alors, avant de rentrer peut-être un peu plus en détail sur les usages, une première question qui peut peut-être intéresser les personnes, est-ce que ces logiciels sont multiplateformes? C'est-à-dire, est-ce que ces logiciels sont disponibles sur à peu près toute plateforme, c'est-à-dire système d'exploitation libre, Microsoft Windows, macOS, Marc pour Inkscape.
Oui, alors toutes les distributions Linux package Inkscape, pour autant que je sache, à part celle pour l'embarquer. On a aussi du coup des installateurs pour Windows, et il y a aussi un volontaire en Allemagne qui nous prépare des installateurs pour macOS.
D'accord.
Donc ça tourne pas sur les tablettes spécifiquement, mais tout ce qui est ordinateur, ça fait tourner.
D'accord. Et côté GIMP géant,
c'est pareil, on est absolument partout, même des systèmes d'exploitation dont personne n'a jamais entendu parler. On entend dire que j'arrive plus à retrouver le nom. Il y a un truc il y a pas longtemps où ils ont compilé GIMP pour ça. Enfin bon. Donc c'est assez similaire à Inkscape. On est absolument partout, quelle que soit la plateforme ou l'architecture même.
D'accord. Alors dans la suite de l'émission, on reviendra sur la partie logiciel libre. Hein, pour l'instant, on va rester sur la partie logiciel. Alors finalement, pour les gens, peut-être connaissent effectivement au moins deux noms, ont déjà utilisé Photoshop. En dessin vectoriel, en logiciel privateur, qu'est-ce qui existe d'ailleurs, Marc?
C'est plutôt une alternative à Adobe Illustrator ou CorelDRAW.
Encore Eldro, d'accord. Pour quel type d'usage, en fait, intuitivement, j'aurais tendance à penser, ou en tout cas historiquement, peut-être que GIMP, c'était de la retouche de photos, etc. Quels sont les types d'usage les plus répandus pour ces deux logiciels? Peut-être commencer par GIMP avec Géant.
Oui, alors, pour GIMP, c'est la photo, hein, ça c'est évident. Ensuite, en illustration, quand on veut... On peut utiliser Inkscape selon ou GIMP. En fait, c'est quand on veut quelque chose, un dessin dessiné plus librement, on va dire. Inkscape, c'est comme c'est. Alors, je vois, c'est pas non plus mathématique. Les gens n'ont pas besoin de faire des équations, hein. Mais c'est tout. C'est des courbes. C'est des courbes plus parfaites, etc. Et GIMP, c'est plus. C'est vraiment un peu comme quand on dessine physiquement. Donc c'est ce genre d'illustration. Voilà. Ensuite, même en designer, on va plutôt utiliser Inkscape, mais souvent quand des fois on dessine des trucs, des petits logos, je sais pas quoi. On va le faire d'abord sur GIMP pour que ce soit facile, et après, une fois qu'on a l'idée bien, on va le redessiner sur Inkscape pour qu'il soit plus... Donc en fait, ils sont très... D'ailleurs, nous, on utilise beaucoup Inkscape. Hein. On développe GIMP, mais on utilise beaucoup Inkscape. Donc voilà, donc GIMP, en tout cas, c'est plus la partie... c'est plus... On se pose moins de questions sur les courbes et sur...
D'accord. Donc c'est des logiciels complémentaires. Donc côté Inkscape, Marc.
Du coup, nous, Inkscape, c'est assez utilisé pour du coup des histoires de graphisme, et en particulier pour ce qui est des affiches ou des choses qui ont besoin de pouvoir être scalées, enfin redimensionnées sur de grandes échelles, et donc en particulier aussi pour les logos où c'est très important. Mais c'est aussi utilisé pour quelques usages qui vont vers des imprimantes, par exemple les illustrations scientifiques. C'est souvent fait avec Inkscape. Et il y a aussi la communauté des Fab Labs qui utilisent beaucoup Inkscape pour diriger les machines à commande numérique comme les découpeuses laser ou autres.
Est-ce que tu peux juste rappeler ce que c'est qu'un Fab Lab en une phrase ou deux?
Un Fab Lab, c'est un endroit où vous pouvez utiliser des machines-outils dirigées par ordinateur globalement pour faire des objets que vous voulez.
Très très bien, d'accord. Donc finalement, par rapport aux personnes qui connaîtraient en tout cas des outils donc comme Photoshop et Adobe, est-ce que finalement, en termes d'usage, de palette d'outils et d'interface, est-ce qu'elles vont s'y retrouver, ou est-ce qu'il va manquer des choses, ou est-ce qu'il y a peut-être des choses en plus? Ouais, je parle là vraiment en première approche, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît Photoshop et qui va utiliser GIMP, est-ce que finalement on va s'y retrouver, parce que c'est un peu la même logique d'interfaçage, on retrouve un petit peu les mêmes palettes d'outils, sachant que je ne connais pas du tout, enfin j'ai déjà utilisé GIMP mais très succinctement, donc géant.
Oui et non. Alors c'est pas comme on n'est pas bon, parce que c'est des critiques qu'on a assez souvent. On ne cherche pas du tout à cloner l'interface. Donc on n'aura pas forcément les mêmes boutons au même endroit, les mêmes menus, il s'appellera pas forcément pareil. Mais de manière générale, les outils sont assez similaires. C'est juste que donc ce qui fait que si on cherche à savoir, si on connaît un outil et qu'on cherche à trouver l'équivalent sur GIMP, en général, on va le trouver. Voilà. Ensuite, il y a des choses qu'il y a sur Photoshop. Hein. De toute façon, c'est aussi une grosse entreprise. Ils ont beaucoup plus de sous. Il y a des choses qui sont, et surtout tout ce qui est en intelligence artificielle et de ça, ils ont pas mal de fonctionnalités, je crois, là-dessus ces dernières années, ce que j'ai compris. Où il y aura pas ça sur GIMP. Voilà. Ensuite, je sais que des fois, on entend régulièrement des gens dire, ah, mais sur Photoshop aussi, ils peuvent pas faire certaines choses qu'on fait sur GIMP. Il y a pas longtemps, quelqu'un me parlait de, Alpha to Selection ou quelque chose comme ça, je crois, ou peut-être Color to Selection. Enfin bon, il y a des choses qui sont dans l'un, qui sont pas dans l'autre. Voilà, les gens qui sont ouverts, ils nous disent souvent le mieux c'est d'utiliser les deux et de les utiliser pour ce qu'ils font bien, parce qu'on peut faire un même projet, on peut passer d'un logiciel à l'autre.
D'accord. Avant de passer la parole à Marc sur Inkscape, je relaie une remarque qui est sur le salon web. Quelqu'un qui nous signale, un membre April d'ailleurs, qui pour la première fois écoute en direct, donc je salue Michael 64000, donc je pense que c'est sa résidence, qui nous dit pour GIMP, j'essaye sans grand succès de le faire adopter par mon entourage, mais beaucoup ont été échaudés par l'affichage en plusieurs fenêtres, alors que ça fait bien longtemps qu'on peut afficher GIMP dans une fenêtre unique. Donc effectivement, peut-être que ce souvenir de multiples fenêtres pouvait rebuter les gens, ben sachez qu'aujourd'hui vous pouvez le mettre dans une fenêtre unique. Donc même question
basique, Jean, vas-y. Même.
Depuis
C'est depuis 2012 qu'on
ah oui, 10 ans,
le fait en fenêtre unique.
Mais alors le problème c'est que les gens restent sur leurs premières impressions. Donc n'en restez pas sur votre première impression, laissez une chance à GIMP et Inkscape et testez-les. Donc même question pour Inkscape. D'ailleurs je précise que Michael précise aussi que pour Inkscape, ce qui est absolument génial, ce sont les tutoriels intégrés au logiciel et basés simplement sur des fichiers. Il en faudrait davantage. Donc même question pour Marc par rapport à Inkscape, par rapport à Adobe.
Les concepts sont très similaires, c'est à peu près les mêmes concepts et beaucoup d'outils sont très similaires entre l'un et l'autre. Après c'est pas pareil que GIMP, on vise pas à faire un clone avec les mêmes outils, les mêmes fonctionnalités exactement. Et il y a certaines manières d'utiliser le logiciel qui vont être plus efficaces dans Inkscape ou dans Illustrator suivant qu'est-ce qu'on cherche à faire exactement. Par exemple pour Inkscape la base c'est les chemins qui sont un petit peu la base du vectoriel, et travailler avec des chemins, de ce qu'on nous dit, c'est plus simple avec Inkscape qu'avec Illustrator. Par contre il y a beaucoup de choses que Inkscape ne sait pas faire ou qu'il y a besoin de plugins pour. Par exemple, si on vise à faire des dessins pour le print,
pour l'impression,
et que on vise à des définitions de couleurs extrêmement spécifiques et extrêmement précises, donc avec ce qu'on appelle du cyan magenta jaune noir, c'est quelque chose qui est assez difficile dans Inkscape, alors que dans Illustrator, c'est des choses qui sont intégrées parce que c'est le logiciel de référence de l'industrie. Il y a donc des petites choses comme ça qui sont des différences, sachant que Inkscape est plus basé historiquement sur les concepts de CorelDRAW que d'Illustrator, donc il y a des passages qui sont plus simples que d'autres.
Alors CorelDRAW c'est aussi un autre logiciel privateur qui est assez ancien. Ta remarque sur l'impression me fait penser à une question. Quand on travaille avec ces logiciels, on peut travailler juste pour soi et pour peut-être des fois des versions uniquement web, mais il peut arriver qu'on travaille avec des prestataires, et notamment c'est des prestataires d'impression pour des affiches ou autres, et effectivement il y a un petit peu cette image en tout cas que quand on utilise GIMP ou Inkscape, on peut avoir des problèmes avec les prestataires, par exemple les prestataires d'impression. Est-ce que c'est toujours le cas? Toi, tu as commencé à y répondre, Marc. Est-ce qu'au niveau de GIMP, il y a ce souci-là ou pas du tout? Géant.
Je vais juste vas-y. Faire un petit commentaire, ouais, par rapport à ce qu'a dit Marc juste avant. Tu disais que c'était pas pareil que GIMP, mais justement, je disais GIMP, pour moi, c'est pareil. On cherche pas du tout à être un clone.
Si, j'ai dit c'est pareil.
Ah, t'as dit c'est pareil.
Oui, okay, je crois qu'il dit c'est pareil.
Pas pareil. D'accord, voilà, parce que justement, c'est pas le but du tout. Et sinon, par rapport à l'impression. Alors, il y a toujours pas de prise en charge de CMYK, donc CMJN, dans GIMP même, c'est-à-dire qu'une image, elle sera pas en 4 canaux de CMJN dans GIMP. On peut les exporter ou importer, ça commence à venir, et notamment il y a un projet là qui devrait démarrer avec quelqu'un, où il va un peu améliorer ça. Par contre, c'est les gens en général qui disent qu'il y a encore des problèmes. De nos jours, c'est faux, on a fait plein d'impressions, parce que il n'y a pas vraiment de d'imprimeur qui se respecte, qui va vous dire absolument faire que du CMJN. Et si on a vraiment besoin, d'ailleurs, on peut aussi transférer. Nous, on utilise beaucoup Scribus, par exemple. Scribus, c'est très bien pour faire la mise en page. On peut travailler sur GIMP ou Inkscape, importer, faire la mise en page en Scribus, où on met les profils de couleurs qui correspondent en CMJN et qui permettent de faire toutes les conversions. Tous les imprimeurs de nos jours savent très bien travailler avec ça. Et de toute façon, même si on travaille entièrement en CMJN, ça ne garantit absolument pas la bonne qualité des couleurs, parce que c'est un sujet tellement compliqué, sauf oui. Si vraiment on a tout parfaitement calibré, ce qui est très rarement le cas, même chez les pros. De manière générale, on demande toujours ce qu'on appelle des hard proof, alors je ne sais plus, des preuves physiques, des preuves d'impression. Voilà, d'accord. Un imprimeur.
Ok, toujours sur la partie, enfin, pas forcément la partie avec les prestataires, mais si je comprends bien, finalement, aujourd'hui, quelque part, autant GIMP que Inkscape peuvent s'utiliser dans un cadre professionnel, et pas uniquement un cadre personnel. Voilà, on peut vraiment l'utiliser dans un domaine professionnel. Est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que vous avez des exemples de cas d'usage, Marc, sur Inkscape?
On connaît plusieurs studios de designers, notamment web, qui utilisent Inkscape dans un cadre professionnel et qui participent à la communauté.
D'accord.
Oui. Il y a des gens qui gagnent leur vie avec Inkscape.
De même, on a régulièrement des... Bah déjà, nous, on l'utilise professionnellement pour du graphisme professionnel, donc qui est rémunéré. Et ensuite, on entend régulièrement. Des fois, on a sur nos canaux de discussion... Il y a quelques mois, il y avait quelqu'un qui est venu, ils ont dit que toute leur entreprise de graphisme, avec je sais plus combien de dizaines de designers qui sont passés sur GIMP, etc. Donc oui, il y a pas de, ça s'utilise tout à fait professionnellement, il y a énormément d'utilisateurs.
D'accord. Une question sur la formation. Une personne qui veut, une double question en fait. Est-ce qu'il y a des prérequis de connaissances soit de dessin vectoriel ou de graphisme pour utiliser ces outils? Et en lien, est-ce qu'il y a des formations? Est-ce qu'il y a des formations professionnelles? Est-ce qu'il y a des universités qui forment à ces outils? Est-ce qu'il y a des associations? Comment, si quelqu'un veut se former, comment elle peut faire? Qui veut commencer? Géant, parce que Marc, il loge la tête.
Alors oui. Alors il y en a moins que les logiciels d'Adobe, hein, ça c'est clair. Ensuite, il y en a. Hein, il suffit de chercher sur Internet. Je crois même quand on regarde sur les formations qui sont remboursées par Pôle Emploi, on peut trouver des trucs pour GIMP. Ensuite, la personne avec qui je travaille, Aliam Han, elle donne par exemple des cours à l'université de Cergy Pontoise, illustration et retouche d'images avec GIMP. Voilà, donc en licence 3. Donc voilà, on trouve des formations. D'accord. Ensuite, est-ce qu'il y a des prérequis? Il y a pas forcément des prérequis, puisque on peut apprendre avec. Ensuite, c'est des logiciels compliqués. Hein. C'est pas juste que c'est des logiciels qui peuvent être utilisés au milieu professionnel. Pour moi, c'est que ce soit Inkscape ou GIMP, c'est des logiciels professionnels, ce qu'on appelle des logiciels métiers, hein, un peu. Donc, certes, qui sont, c'est des concepts compliqués. On peut les utiliser en amateur, mais oui, il y a plein de concepts compliqués. Et plus on les utilise et plus on découvre des trucs. Même moi, après avoir développé GIMP pendant 10 ans là, depuis 10 ans, je découvre encore des trucs. Donc voilà.
D'accord. Est-ce que tu veux compléter, Marc?
Moi aussi, des trucs dans Inkscape à chaque fois que je fouille, soit dans les fonctionnalités, soit dans le code.
D'accord. Alors, sur les formations, je vais aussi rajouter qu'il y a la formation Colibre à Lyon, formation autour du graphisme et de la communication qui utilise que des logiciels libres, dont forcément, évidemment, GIMP et Inkscape. Dernière question sur cette partie, on va dire, présentation générale des outils. On a parlé des logiciels, mais le but de ces logiciels, c'est de créer entre guillemets aussi des fichiers quelque part. Il y avait la question des formats ouverts. Est-ce que l'un de vous veut expliquer un petit peu l'importance de ces formats ouverts par rapport à des formats fermés? Marc.
Alors nous, Inkscape, le format de travail d'Inkscape, on a choisi que ce soit lui-même un format ouvert et un format standard. C'est-à-dire que Inkscape travaille directement avec le format SVG, qui veut dire Scalable Vector Graphics, et qui est le format officiel pour les dessins vectoriels sur le web, qui est spécifié par le W3C, le World Wide Web Committee, donc le comité qui définit les standards du web comme HTML. Et donc c'est avec ce standard-là que nous on travaille directement, comme ça nous on fait des fichiers qui par défaut sont les plus standards possibles.
D'accord.
C'est une prise de position du projet Inkscape sur ce point.
Ok, et côté GIMP c'est la même chose? Enfin c'est le même principe?
Non, parce qu'il y a, un format ouvert qu'on veut de collaboration qui s'appelle le format Open Raster. ORA, mais bon, il est encore assez limité, il est encore relativement peu utilisé. Il n'y a qu'un seul logiciel qui le prend vraiment comme... C'est MyPaint, c'est un logiciel libre aussi, très bien d'ailleurs, d'illustration, qui l'utilise comme son format par défaut. Mais sinon, à part celui-là qui n'est pas encore suffisamment utilisé, chaque logiciel... alors, je parle de format de travail, hein, donc... Oui. Donc chaque logiciel a son propre format. Alors le nôtre, il est ouvert dans le sens où donc c'est le XCF. Donc format, ils sont tout est entièrement documenté. Donc n'importe qui peut le réimplémenter. Mais ensuite, c'est vrai que nous on cherche pas, c'est pas standardisé. Si on a besoin de modifier quelque chose, on le modifie de notre côté.
D'accord.
Et c'est aux autres à suivre. Voilà. Idéalement, il faudrait que le format OpenRaster s'améliore. Mais sinon, à part ça, c'est voilà, on peut échanger entre les fichiers. Alors, ce qu'on va faire, si on a besoin d'échanger avec d'autres projets, enfin dans d'autres logiciels, ce sera plus d'exporter dans des formats intermédiaires comme le PNG, etc. Mais ça peut être par calque ou par voilà. Ou alors, d'accord. Voilà. Ou alors l'autre logiciel aussi. Des fois, ils implémentent XCF. Il y en a pas mal qui implémentent XCF. Ou nous, par exemple, typiquement GIMP, on implémente le logiciel PSD, le format PSD de Photoshop. Il y en a pas mal aussi. La plupart des logiciels vont implémenter. Ce sera jamais parfait, c'est ça le truc.
Ouais.
C'est ça la grande différence, c'est que nous, des fois, certaines fonctionnalités avancées de PSD, on n'arrivera pas à les importer bien. Et à l'inverse, d'autres logiciels peut-être qui savent ouvrir du XCF, ils n'arriveront pas à bien ouvrir certaines des fonctionnalités avancées de XCF. Voilà.
Ok. Avant la pause musicale et qu'on change de thématique, je vais relayer la dernière question qui on revient sur les formations. C'est mon collègue Étienne qui demande, dans les écoles de design, de graphisme, d'art, savez-vous si ces deux logiciels sont enseignés au même niveau que Photoshop ou Adobe Illustrator, c'est en termes de qualité, de quantité horaire, etc. Alors, réponse rapide, Marc, sur Inkscape.
A priori, enfin pour ce qu'on en sait, c'est beaucoup moins enseigné qu'Illustrator pour... je dirais trois raisons principales. D'abord parce que c'est ce que les profs et les professionnels du domaine connaissent, donc c'est ce qui leur est plus simple à enseigner. Parce qu'il y a un gros lobbying d'Adobe sur les écoles d'art qui vont pousser pour faire des réductions pour les étudiants, où les étudiants vont y avoir l'impression d'y gagner en prenant Adobe pour seulement 40 euros par mois au lieu de 80 ou 90. Et parce que quand les étudiants vont chercher du travail après, bah, la plupart du temps, les demandes vont spécifier des compétences en Illustrator et pas en autre chose.
D'accord. Et côté GIMP, géant ?
Oui, c'est pareil. Ensuite, les logiciels d'Adobe restent quand même les plus utilisés. Et il y a un tel lobbying. Et puis, ils ont souvent des licences gratuites, je pense, les étudiants. Donc, en plus, quand ils ont des licences gratuites, ils ont l'impression d'être plus professionnels parce qu'ils ont un logiciel cher.
D'accord.
Voilà.
Ok, d'accord. Donc, alors, on va faire une pause musicale avant de changer de sujet. Je précise que la pause musicale a été choisie par Géant, il expliquera sans doute après. Nous allons écouter, alors, j'ai un agneau gastrix chez Wish and Lidl Part 1, Screw This Deal par Plagia. On se retrouve dans 3 minutes 30. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
Cause Commune.
Venons d'écouter « J'ai acheté un agneau gastrique chez Wish and Lidl Part 1 Exclusive Deal » par Plagia. Disponible sous licence libre Creative Commons, partage dans les mêmes conditions, CC by SA. Je précise, parce que j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, que ce groupe fait partie du collectif AMMD, AMMD.net. Nous avions un collectif d'artistes qui diffusent des œuvres sous licence libre. Nous avions interviewé ORL de ce collectif dans Libre à vous 126. Donc vous retrouvez le podcast et la transcription sur libreavous.org/126.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavous.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Nous allons poursuivre notre discussion sur les logiciels libres GIMP Inkscape avec Marc Jean Mougin et Géant Pageste. Juste avant la pause musicale, nous avons parlé un petit peu des fonctionnalités de ces deux logiciels qui sont des logiciels libres. Donc là, on va parler plutôt de la partie projet, fonctionnement interne, gouvernance, pour un peu expliquer comment ces projets sont développés, parce que c'est souvent une question qui revient, hein, c'est un petit peu un mystère souvent pour les personnes. Donc déjà, avant de rentrer un petit peu dans les détails, quelle est la, je ne sais même pas s'il y a une structure de fonctionnement, quel est le fonctionnement en gros du projet. On va commencer par Inkscape.
Alors quasiment toutes les personnes qui sont dans le projet Inkscape sont des bénévoles, donc qui travaillent sur Inkscape sur leur temps libre. Et après, au niveau de la structure, donc Inkscape, c'est un projet hébergé par la Software Freedom Conservancy, qui est une entreprise, une association américaine.
De droit américain.
Ouais. Qui est une non-profit, donc qui n'a pas le droit de faire de bénéfices.
Non lucrative.
Voilà, non lucratif, sachant que c'est quelque chose de beaucoup plus restreint aux États-Unis qu'en France comme statut. C'est eux qui vont gérer les finances de l'association qu'on reçoit par des dons et qui vont gérer, par exemple, si on veut embaucher. En ce moment, on est dans le process pour embaucher quelqu'un pour s'occuper de la gestion de projet au niveau du projet en général, pour essayer de voir qu'est-ce qui manque dans le projet ou est-ce qu'on pourrait faire un meilleur usage des ressources en personnes qu'on a. Mais sinon, comment on s'organise entre nous, donc entre bénévoles, on s'organise plutôt par équipe. Donc il y a l'équipe de développement qui va s'occuper des codes, des bugs, des nouvelles fonctionnalités et autres, et qui se rencontre tous les 8 jours pour discuter, par exemple, mais sachant qu'on a aussi des canaux de discussion.
Quand tu dis qu'ils se rencontrent physiquement?
Non, pas physiquement, en ligne.
En ligne, d'accord.
Pour discuter. Il y a aussi, du coup, une équipe de gens qui vont, par exemple, faire les traductions. Donc ils vont discuter entre eux de problématiques de traduction. Il y a une équipe de gens qui vont s'occuper du design de l'expérience utilisateur de Inkscape, donc qui vont un petit peu se coordonner avec les développeurs de temps en temps, mais qui vont surtout discuter des aspects de parcours utilisateur, etc. Il y a une équipe de gens qu'on appelle les Vectors, parce que ça fait un petit jeu de mots, qui vont s'occuper de la promotion d'Inkscape, c'est-à-dire faire des petits articles, de contacter éventuellement des journaux qui s'occupent du libre pour dire qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle fonctionnalité, ou d'écrire des petits articles de blog, etc. Donc on fonctionne vraiment par team et
par équipe, d'accord.
Par équipe, ouais.
On va après rentrer un petit peu dans le détail. Là, c'est une présentation un petit peu générale. Donc même question pour le projet GIMP géant.
Alors nous aussi, c'est entièrement communautaire. Alors si on parle de tout ce qui est finance, c'est pour nous c'est la fondation Gnome qui gère nos finances et qui héberge nos outils. Ensuite, on est totalement indépendant, c'est pas un projet GNOME, un GIMP. D'ailleurs, ce serait plutôt l'inverse, un GNOME est né de GTK qui lui-même est né de GIMP.
GTK, voilà, c'est le cadre de développement que vous utilisez pour faire GIMP, c'est ça?
Voilà, c'est ça. C'est la bibliothèque graphique pour l'interface. Donc voilà, ensuite, la plupart sont des bénévoles. Ensuite, certains dont nous, avec notre projet, essaient de se financer indépendamment, participativement. Donc nous, avec notre projet The Marmotte. Il y a le mainteneur de Gaggle qui est notre moteur graphique, alors dans le sens le traitement des pixels par l'interface, qui lui aussi essaie de se financer. Voilà, en fait, on se finance indépendamment et on a des idées de monter une entité peut-être à part, probablement sous la forme d'une association et probablement en France parce que c'est moi qui fais la plupart des choses dernièrement. Donc on verra si ça se fait, mais pour l'instant, tous les financements, on va dire individuels, pour ceux qui veulent essayer de vivre de développement, c'est indépendant. Voilà, donc c'est un peu plus, c'est assez anarchique comme type d'organisation. Et voilà, et je pense qu'on est beaucoup, enfin, je sais pas trop, mais comme j'entends Marc là, je me dis qu'on est, on n'a pas d'équipe comme ça, on n'a pas 10 équipes pour tout. Parce que moi, là, depuis deux ans, c'est moi qui fais la plupart des choses, par exemple, que ce soit en développement, que ce soit c'est moi qui écris les news sur le site, les articles sur le site web, c'est moi qui fais beaucoup de choses. Heureusement, je suis quand même aidé, mais j'aimerais bien qu'on ait plein d'équipes pour plein de choses.
Alors justement, je vais te laisser réagir, Marc. Je vais presser un peu la question. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui sont, alors c'est difficile de dire activement impliqués parce que ça dépend beaucoup, mais est-ce que vous avez une idée un petit peu du nombre de personnes? C'est vrai que quand on écoute Marc, on a l'impression d'avoir une grosse structure avec plein de personnes, mais est-ce que pour donner une idée, vous avez une idée du nombre de personnes, Marc?
Ça dépend beaucoup de comment on compte les gens, parce que si les gens ils viennent. Mais je voulais aussi dire que cette structure en équipe, c'est quelque chose de relativement récent. On s'est aperçu que c'était plus simple pour les gens qui voulaient nous aider sans forcément coder, d'avoir cette sorte de structure et de pouvoir leur dire, si vous voulez nous aider sur tel truc, voilà tel canot de discussion qui s'occupe de tel sujet. Et c'était plus simple comme ça. Et du coup, je dis une équipe, mais en vrai, il y a des équipes où il y a plus de gens que d'autres. L'équipe qui s'occupe de la promotion, il y a peut-être 6-7 personnes qui sont là régulièrement. L'équipe UX, peut-être 2-3.
UX, c'est la partie expérience utilisation. Oui.
C'est peut-être 2-3, donc je dis équipe, mais il ne faut pas s'imaginer qu'il y a 40 personnes par équipe. On a quelques développeurs, quelques personnes qui nous aident sur la promotion, etc. C'est pas,
Alors, je vais préciser ma question et je laisserai Géant y répondre aussi. Sur la partie développement pur du logiciel, côté Inkscape, est-ce que vous savez combien vous êtes et combien vous êtes de personnes qui, entre bénévoles et personnes payées pour ça? Parce que toi, tu as expliqué tout à l'heure que tu étais en partie payé pour contribuer à Inkscape sur ton temps de travail par Télécom Paris. Donc, est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes sur la partie vraiment purement développement, Marc, déjà?
Je dirais qu'il y a moins d'une dizaine de gens qui sont là de manière régulière. Quand je dis régulière, c'est qu'on les voit depuis longtemps et qu'on sait qu'on pourrait les contacter. Et il y en a, en termes de rémunérés, vraiment très peu. Il y a moi sur une toute petite partie de mon temps. Je sais qu'il y a Martin Owens qui est un développeur américain qui a un Patreon et qui essaie de se financer comme ça.
Patreon, c'est du financement participatif.
Ouais. Donc il y en a quelques-uns qui ont une tentative de financement participatif comme ça et aucun qui est rémunéré par le projet.
Ok. Et côté GIMP, même question?
Alors côté GIMP, donc au niveau développeur, il y en a que deux, donc moi-même, donc par The Marmotte et donc Pipind. Alors son vrai nom c'est Oyvind Kolas, mais je sais pas comment ça se prononce, donc j'ai sûrement mal prononcé, qui lui aussi se finance par financement participatif. Donc on est que deux. Ensuite, au nombre de développeurs, ça dépend, parce que nous GIMP ça existe depuis 1995, donc là je viens de faire un compte vite fait, il y a eu plusieurs centaines de personnes qui ont contribué. Ensuite, par exemple, si je regarde là, depuis le 1er janvier 2022, je viens de regarder l'instant, il y a eu moins de, je sais pas, peut-être, le problème c'est qu'il y a aussi beaucoup les traducteurs qu'on voit là, mais une dizaine peut-être de personnes qui ont contribué. en sachant que depuis janvier, moi j'ai fait 306 commits et le deuxième développeur il est à 13. Donc en gros c'est voilà. Alors par contre oui, sur GIMP, la partie GIMP, mais ensuite nous on compte aussi Gaggle, et là il y a donc Pippin qui travaille lui aussi beaucoup et qui a aussi un flow. Alors si j'ai pas regardé là son dépôt, mais lui qui travaille aussi qui fait similairement à moi énormément de voilà. Donc en gros on est deux à faire vraiment vraiment le gros du travail à l'heure actuelle, et puis il y en a certains réguliers qui font parce que 13 c'est déjà pas mal en quelques mois, qui font de temps en temps des trucs, et puis voilà. Alors on était un peu plus il y a quelques années, mais là la situation j'avais un co-mainteneur qui depuis 2 ans là il travaille, alors qu'il était là depuis une vingtaine d'années lui, hein. Donc, depuis plus longtemps que moi, et il a un peu voilà, apparemment ça c'est l'année, les 2 années furent assez dures pour lui avec le Covid et tout ça.
D'accord.
Voilà.
Ok. Donc ça permet aussi de prendre conscience que ces logiciels libres qui sont quand même très largement utilisés reposent au fond sur très peu de personnes. Donc là, on a parlé à partie effectivement dev, où on se voit, c'est pas énormément de personnes. Marc a évoqué différentes équipes, parce qu'une des forces du logiciel libre, c'est qu'on peut contribuer pas uniquement en développement. Donc quelqu'un qui voudrait là vraiment s'impliquer dans l'un de ces projets ou dans ces deux projets, quels sont les besoins les plus importants en termes de contribution hors développement, Marc, sur Inkscape?
Je dirais que sur Inkscape, l'expérience utilisateur, c'est quelque chose où on aimerait avoir plus des vues plus diversifiées sur les questions, donc pour avoir une plus grande représentativité des gens qui utilisent Inkscape. Donc, qu'ils puissent venir s'impliquer sur les discussions sur des futures fonctionnalités ou sur des refontes de fonctionnalités. S'il y a des designers d'expérience utilisateur qui nous écoutent, on en a besoin dans le projet Inkscape, parce qu'on sait que c'est pas forcément le point fort du logiciel. Et puis voilà.
Et parce que là, vous êtes tous les deux français. Enfin, en tout cas,
oui, par ailleurs, oui. On cherche les traducteurs français aussi, puisque là, c'est moi qui me suis mis à traduire pour la prochaine version. Mais en vrai, si d'autres personnes veulent le faire,
donc de la traduction. Mais ma question était plutôt sur la langue utilisée pour contribuer. Est-ce que quelqu'un qui ne parle pas l'anglais peut facilement contribuer, Marc?
Non.
Non, c'est compliqué.
En réponse courte, non.
D'accord.
Enfin, c'est vraiment compliqué dans le sens où l'anglais c'est un peu la langue des échanges internationaux sur les projets de logiciels libres, et là on fait pas exception.
D'accord. Et côté GIMP,
par rapport à ça, il faut parler anglais, mais on demande pas aux gens d'avoir un anglais parfait.
Ah non, on a des gens qui parlent très 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 mal anglais, hein.
Voilà,
et on s'en fiche en fait.
Voilà, en fait c'est personne vous dira rien si vous faites des fautes, tant qu'on vous comprend, tant que vous faites des efforts pour être compris. Donc en gros, et en ce sens, je dirais que faut pas que ce soit ça qui arrête, parce que ce serait un peu idiot.
Et puis c'est une bonne façon d'apprendre l'anglais, de contribuer à ces projets. Mais en tout cas, les gens doivent savoir qu'il y a un minimum effectivement pour être en tout cas compréhensible. Est-ce qu'il y a aussi des besoins, parce que tout à l'heure Géant a expliqué quand même que c'était deux logiciels libres métiers. Donc quand on dit logiciel métier, bah il y a des concepts, etc. à comprendre, à maîtriser, ou en tout cas qui sont pas forcément évidents à appréhender. Est-ce que côté documentation, côté tutoriel, est-ce qu'il y a des besoins? Tout à l'heure sur le salon web, quelqu'un parlait justement qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient déjà. Ce sont des besoins récurrents pour GIMP Inkscape Géant?
Ah oui, tout à fait. Bah, nous, on a une assez grosse documentation, assez complète. Enfin, pas, elle est pas complète. Justement, elle n'est pas encore complète, mais il y a beaucoup de choses dedans. Voilà. Alors, elle a été plus ou moins un peu abandonnée pendant quelques années, mais là, il y en a un contributeur, Jacob, qui l'a repris. D'ailleurs, je l'ai mis mainteneur sur la documentation, ce qui fait beaucoup de choses. Donc quand tout à l'heure je donnais le nombre de commits, c'était sur le code de GIMP, mais lui en fait par exemple il fait beaucoup de choses maintenant sur la documentation. C'est pour ça qu'il fait un peu moins sur le code, mais en même temps c'est très utile. Donc oui tout à fait, il y a besoin. Ensuite il y a plein de gens qui vont pas lire la documentation et dire je comprends pas, mais on a une documentation qui explique pas mal de concepts. Voilà. Et puis sinon la traduction en GIMP par exemple, c'est traduit en plus de 80 langages. Hein. Il y a plein de traducteurs. Alors là, on bénéficie des équipes de traduction de la fondation GNOME, comme on est dans l'infrastructure. On est aussi connecté à ça, et les traducteurs, ils traduisent aussi. Il y a, Il y a quand même pas mal d'activités hein, pour toutes les personnes qui veulent aider sans être développeur. Voilà. Ensuite, le site web, là, dernièrement, c'est moi qui crée beaucoup de choses. Mais ce qu'on aimerait bien, et c'est par exemple qu'il y a des gens qui proposent des tutoriels pour tous les niveaux. En fait, il y a pas, à la limite, ça peut être des tutoriels débutants si on est soi-même pas forcément très avancé. Et ça nous permet aussi d'apprendre et d'avoir des tutoriels. Et puis après, plus tard, d'avoir des tutoriels avancés. Voilà, il y a plein de, ou le site web aussi, l'améliorer en lui-même, hein. S'il y a des gens qui sont plus des designers web ou des développeurs web qui veulent l'améliorer. Il y a pas mal de choses où on peut aider.
D'accord. Côté Inkscape.
Ah bah pareil, on considère que les tutoriels et la documentation, c'est une partie importante de ce qui permet aux gens de s'y repérer rapidement dans un logiciel. Que on a déjà quelques tutoriels intégrés, mais en vrai, il y a plein de choses qui sont pas vraiment documentées ou pas bien expliquées dans le logiciel, et que si des gens veulent nous aider à écrire des tutoriels ou autres, ils sont bienvenus évidemment.
Alors, on voit que ces deux logiciels, en tout cas c'était évoqué en première partie, GIMP et Inkscape, ont des liens en commun, et puis et il y a d'autres logiciels libres de graphisme, etc. Est-ce qu'il y a des lieux d'échange entre les différents logiciels libres pour les évolutions ou autres? Est-ce qu'il y a des lieux physiques? Est-ce que vous rencontrez à certains moments pour avancer sur des projets communs, ou simplement pour échanger sur vos problématiques ou vos projets sur les versions à venir? Marc?
Avec le Covid, c'est un peu plus compliqué, mais ouais. En tout cas, jusqu'en 2020, il y avait le Libre Graphics Meeting, qui était une réunion annuelle des projets de logiciels libres liés au graphisme. Donc, nous, on rencontrait des gens de GIMP, de Krita, d'Inkscape, de Blender, et de plein d'autres logiciels liés de près ou de loin au graphisme.
C'était un événement physique.
C'était un événement physique annuel.
D'accord. Voilà.
Et après, sinon, on essayait aussi de faire un événement par an où on rencontre les autres développeurs d'Inkscape pour discuter du projet.
D'accord. Et même chose côté GIMP, vous avez des rencontres dédiées GIMP ou vous participez à d'autres rencontres comme le Linux Graphic Meeting?
Ah, tout à fait. Bah, on allait au LibreGraphics Meeting qui d'ailleurs est un peu une extension alors c'était avant que j'arrive, hein, ça, des conférences GIMP où les premiers développeurs ils se rencontraient, et puis après il y a eu le LibreGraphics Meeting qui, je pense, avec GIMP, Inkscape et les projets de l'époque, on se sont dit, et si on se rencontrait entre nous? Donc ça, on y allait tous les ans. Moi, j'y suis allé là tous les ans depuis 2013. Voilà. Et d'ailleurs, c'est le fait qu'on en est plus là depuis 2-3 ans là, que ce que je disais, le mainteneur qui a l'autre mainteneur qui a plus ou moins disparu, je sais qu'il me disait tout le temps que c'était ce qui lui manquait le plus. Parce que lui, justement, il cherche pas forcément à travailler. Enfin, il se finance pas du tout sur GIMP et tout ça. Lui, il est libraire. Il faisait ça entièrement sur son temps libre. Comme il était son propre patron, je l'imagine, dans sa librairie, quand il y avait personne, il était en train de coder. J'imagine que c'était ça. Voilà. Et je sais que c'est un truc qui manque énormément, de plus pouvoir se rencontrer, de plus voir, et ça, c'est un, voilà. Donc c'est quelque chose de très important. Et puis, de temps en temps, on avait fait aussi ce qu'on appelait le Wilbur Week.
Le quoi?
Wilbur, c'est notre mascotte.
Ah oui,
d'accord. Et ça, oui, en fait, c'est le logo de GIMP.
Oui.
Le logo, il s'appelle Wilbur.
D'accord.
Donc voilà. Donc le Wilbur Week, c'était quand on se rencontrait juste entre nous. Des fois, on louait un lieu au milieu de la campagne, genre en Espagne, au milieu de la forêt. Et puis, on restait une semaine à coder entre geeks et à faire des projets, voilà, sur le futur de GIMP.
D'accord. Bah, peut-être qu'avec la période qui est un peu plus, on va dire que la pandémie a totalement disparu, mais peut-être que le Linux Graphics Meeting va pouvoir revenir à un moment ou l'autre. Et de mémoire, c'est-à-dire c'était en France.
C'est Libre Graphics Meeting.
J'ai dit quoi?
Linux.
Oh mince.
Pas grave.
Libre Graphics Meeting et c'était, si je me souviens bien, c'était l'événement qui est souvent organisé en France, sauf erreur.
Ouais. Je pense que les premiers, c'était en France, effectivement. Et dernièrement, c'était aussi en France le dernier qui était censé se produire.
D'accord.
Mais ensuite, à part ça, il a été quand même dans pas mal de pays du monde. Mais il a été plusieurs fois en France, effectivement.
D'accord. Dans les projets logiciels libres, en fait, ce qui est disponible, c'est... tout à l'heure, en introduction, Marc parlait qu'il s'occupait notamment de ce qu'il appelait des releases, c'est-à-dire la publication des versions, on va dire, entre guillemets, officielles ou stables. Donc, il y a les versions de développement, versions officielles. Comment ça se passe, en fait, d'un point de vue pratique? À quel moment le projet dit que Et même question pour Géant après, parce que j'ai vu que récemment sur linuxfr.org, tu as posté une dépêche annonçant la prochaine version de GIMP avec tout ce qu'elle est arrivée. Comment ça se passe, le choix tout d'un coup de dire à un moment, cette version-là, c'est une version entre guillemets officielle avec un numéro. Comment ça se passe, Marc-Jean Bougin?
Alors, on a un petit peu changé de paradigme il y a 2 ans, parce qu'on a mis plusieurs années à sortir la version 1.0 après un des gros changements sur le code. Et on s'est dit qu'il fallait faire des trucs plus réguliers. Et donc... vraiment, vers ce moment-là, on a décidé, on fait une sortie majeure par an, à peu près en mai, et on fait 2 releases de correction de bugs, 4 mois après, 8 mois après, comme ça, ça fait tous les 4 mois, il y a une release, et c'est comme ça.
D'accord. Alors, je précise que tu viens de poser le mot bug. La prochaine chronique, Vincent Calam, qui s'est installé, nous parlera d'un bug qui peut envoyer en prison. Vous verrez la chronique, c'est un petit teasing. Donc c'est bientôt la prochaine version majeure, comme tu dis, puisque nous sommes en avril 2022, je précise, pour les personnes qui nous écouteraient dans le futur, qui serait déjà la version 10 de Inkscape. Même question pour GIMP. Récemment, sur linuxfr.org, qui est un site d'information autour du logiciel libre, tu as publié, Géant, une longue dépêche. D'ailleurs, on te félicite sur le salon web détaillant les ce qui allait venir. Donc comment ça se passe pareil sur la décision de telle version et devient une version majeure?
Alors nous, c'est beaucoup plus bordélique parce qu'on n'a pas vraiment de calendrier. C'est comme beaucoup de projets font. Ensuite, c'est juste quand on se dit... pour une version majeure, c'est différent. Mais pour une version, soit ce qu'on appelle mineure ou micro, on se dit à un moment donné, on a des bonnes corrections, des bonnes choses. Et on la sort, et on sort comme ça des versions tous les 3 mois, je dirais, à peu près. Voilà, en général, on se décide 10 jours avant, et voire une semaine avant, et en général, on a, par rapport à notre décision, on a encore 2 semaines de retard. Parce que, voilà. Donc, c'est en gros, ça fait ça. Donc, voilà. Ensuite, nous aussi, on a changé avec la 2.10, donc c'était en 2018. On a changé notre logique où jusqu'alors on faisait les versions micro, c'est-à-dire qu'on a des chiffres sur des versions sur 3 numéros. Genre on est à la 2.10.30 par exemple. Les micros, c'est quand on change seulement le 3e numéro. On disait que c'était que des corrections de bugs, sauf que maintenant on a décidé depuis 2018 qu'on peut avoir des nouvelles fonctionnalités, parce que justement on s'était rendu compte que beaucoup de gens en fait croyaient que GIMP était mort, parce que entre les sorties de version mineure où on pouvait avoir des fonctionnalités, il pouvait se passer plusieurs années. Alors qu'on avait tous les quelques mois on a des sorties, mais les gens les voyaient pas puisque c'était des sorties qui ne corrigeaient que des bugs. Voilà, donc en gros quand c'est des bugs, ils ont pas l'impression que c'est développé en fait. Quand c'est des corrections de bugs, je veux dire.
D'accord.
Voilà. Donc voilà. Et ensuite la sortie majeure, là c'est plus compliqué parce qu'il faut il y a pas mal de choses où, en fait, notamment, on a une interface de programmation pour les plugins, ce genre de choses, et il faut absolument que ça soit stable, parce qu'ensuite, on sera bloqué avec ça pendant 10 ans ou plus, quoi.
Ok, d'accord. Alors, le temps passe vite, il nous reste très peu de temps, mais je vais d'abord relayer une question rapide pour Marc, qui est sur le salon web. La question, c'est est-ce que tu considères que LibreOffice Draw et Inkscape sont comparables? Et la question est complétée par est-ce que les équipes ont des contacts? Donc, Marc-Jean Mougin.
J'utilise pas assez LibreOffice Draw pour savoir si c'est vraiment comparable.
D'accord.
Je l'utilisais il y a très longtemps, et pour moi, il y avait plus de fonctionnalités dans Inkscape, mais c'était un petit peu le même principe de base. Après, je sais pas trop ce qu'ils utilisent comme format de fichier, et on n'a pas vraiment de contact avec la Document Foundation à ma connaissance.
Alors, la Document Foundation qui est notamment derrière LibreOffice, qui est un petit peu qui chapeaute un petit peu LibreOffice. Alors, il y a une question dans le cadre de la préparation de l'émission, un sujet qui te tenait à cœur, c'est le terme de logiciel libre communautaire, pas juste logiciel libre et pas juste logiciel communautaire. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par logiciel libre communautaire, notamment dans le cas de GIMP?
C'est un peu ce dont on a parlé, que ce soit pour Inkscape ou GIMP, c'est des logiciels qui sont vraiment... Parce qu'il y a quand même il y a beaucoup de logiciels libres qui sont quand même créés de manière très centralisée, et des fois par des grosses boîtes, je veux dire, même Google, ils font des logiciels libres. Voilà. Et c'est vrai que ce soit Inkscape, de ce que je connais, ou GIMP, c'est vraiment une communauté derrière, et c'est vous qui le créez, en fait, parce que n'importe qui... Moi, j'étais n'importe qui hein, quand j'ai commencé en 2012. Moi, j'ai envoyé mes premiers patchs. Je crois mon tout premier patch, c'était je rajoutais une icône sur un bouton. Quand on cliquait, ça changeait l'icône parce que c'était un bouton play stop. Je me disais, mais quand j'appuie sur play, je veux que ce soit stop. Je crois que c'était ça, mon premier patch. Donc c'était vraiment les trucs de base. Et en fait, assez rapidement, j'ai fait quelques corrections comme ça, et on m'a donné, à un moment, on m'a dit, maintenant, mais tu fais des bons patchs, vas-y, je te donne les droits d'accès. Alors, on fait pas n'importe quoi, on a une responsabilité à ce moment-là. Et c'est ça, en fait. C'est une communauté qui crée n'importe qui vraiment peut participer. Voilà. Et en fait, c'est pour moi, c'est un concept très important, parce que je trouve que c'est ça qui fait la beauté de ces logiciels, et c'est quelque chose qu'on ne veut pas perdre. D'ailleurs, je parlais tout à l'heure de possiblement faire un organisme, une entité, et c'est quelque chose aussi où je réfléchis beaucoup, c'est que je ne veux absolument pas perdre, je ne veux pas que ce soit une entité qui puisse, on va dire, prendre le contrôle du développement, par exemple.
Ouais, tu as peur qu'une structure, quelle qu'elle soit, puisse en fait rigidifier quelque chose qui est assez souple, en fait. C'est
tout
ça?
À fait, exactement.
Ok.
Ouais.
On aborde vraiment la toute fin. On en a parlé tout à l'heure un petit peu du financement, notamment côté GIMP, alors, et côté Marc avec son petit bout, mais en tout cas qui est important, d'un employeur public qui finance Marc pour contribuer à Enescape. Géant côté GIMP, tout à l'heure, tu parlais, et je crois que c'est Marc aussi qui a parlé de Patreon, donc c'est des financements participatifs. Comment ça fonctionne ce genre de financement, notamment dans le cadre de ton activité à GIMP?
Alors, en fait, le financement participatif, donc là, on avait fait aussi à tout début un financement participatif sur des grosses plateformes comme le genre de plateforme qu'on connaît, que vous savez, Kickstarter, Indiegogo, mais ça, c'est en une fois. Mais alors, les types Patreon ou Tipeee, on est sur Patreon, Tipeee ou Liberapay, que moi je conseille plutôt Liberapay, parce que c'est aussi une association française à but non lucratif qui gère ça, et et la plateforme elle-même est en logiciel libre. Et en fait, là, c'est plus où les gens se souscrivent en fait un peu et peuvent donner. Alors, pour Patreon et Tipeee, c'est par mois. Pour Liberapay, c'est par semaine. Et on peut dire, par exemple, quelqu'un se souscrit et donne quelques euros par semaine ou quelques euros par mois. Et en fait, c'est une autre façon de voir le financement. Plutôt que de faire un gros truc, il faut absolument avoir une énorme somme. Là, on peut avoir plein de gens qui donnent juste un tout petit peu de temps en temps. Plus souvent, voilà. Et en fait, donc notre projet, The Marmot, vous pouvez d'ailleurs le trouver sur les trois plateformes, la Patreon, Tipeee, Liberapay. Voilà. Et il y en a d'autres, Pipin, P-I-2-P-I-N aussi, vous pouvez trouver lui sur Patreon. Et donc lui aussi, et Liberapay aussi. Voilà, lui c'est pour le moteur graphique, c'est aussi un très important, lui.
D'accord.
Voilà. Et je sais, sous Inkscape, ils ont aussi, comme tout à l'heure disait Marc, on sait qu'il y a un développeur qui fait pas mal de choses dernièrement et qui est aussi sur Patreon.
Tu veux compléter là-dessus d'ailleurs, Marc? Avant de passer à la dernière question.
Pour moi, c'est un peu complémentaire au fait Inkscape, on reçoit donc des dons qui passent par la Software Freedom Conservancy et qui financent le projet en général, c'est-à-dire les dépenses qu'on a au niveau du projet, mais qui n'emploient pas de développeurs. Donc, c'est un petit peu complémentaire pour permettre aux développeurs d'avoir un revenu régulier. Donc, on a Martin Owens qui a ça, ouais, notamment.
Et ce que permettent ces plateformes comme Digéant, c'est cette récurrence aussi qui garantit, ouais, une sorte entre guillemets de pérennité, de visibilité sur le long terme. Avant la dernière question finale de résumé, de synthèse, est-ce que vous avez des annonces ou des besoins donc vous n'auriez pas évoqué pour le moment, très rapidement, Marc?
On annonce rapide, dans à peu près un mois on a Inkscape 1.2 qui sort, ce sera cool.
Parce que nous sommes en mai, dans voilà, très bientôt, d'accord. Et côté GIMP?
Alors, je peux pas vous annoncer quand GIMP 3 sort.
Non, quand il sera prêt.
Voilà, quand il sera prêt. J'ai essayé de pousser, hein, et si ça peut être cette année, mais il y a des choses à être sûr, donc je peux pas vous dire que ce sera cette année. On travaille beaucoup dessus. Voilà.
D'accord.
Sinon.
Ok. Alors, question finale rituelle de l'émission. En conclusion, quels sont les éléments clés à retenir de l'émission en moins de 2 minutes chacun? On va commencer par Géant Pagès pour GIMP.
Pour moi, les éléments clés, c'est un peu tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire que pour moi, c'est assez important de comprendre comment GIMP fonctionne, comment Inkscape fonctionne aussi. Je trouve c'est très important parce qu'il y a des gens qui nous parlent encore comme si on était du support technique, qui vont nous insulter ou quoi. Alors qu'ils comprennent pas que la communauté, c'est eux aussi. Voilà. Ensuite, je reviens sur le financement. Hein, cherchez-nous sur Patreon, Tipeee, Liberapay, hein, The Marmot, Z2MARMOT et Pipin, PI2PIN. Parce que je pense que c'est très important. Voilà, et puis n'hésitez pas à contribuer. La contribution, franchement, tout le monde peut la faire, même si vous n'êtes pas développeur. Comme je disais, il y a plein de choses que je fais et que j'aimerais ne pas avoir à faire. parce que je préférerais me concentrer sur le code, et s'il y avait des gens qui veulent aider, il y a des choses pour tout le monde. Et pour le co-développeur aussi, évidemment. Si le développeur.
Ok, voilà. Bah merci Géant. Et donc, Marc Jean Mougin, même question.
Ok, donc je vais un petit peu faire une réponse qui est un petit peu similaire. Hein. Donc à retenir, donc le fait que Inkscape, en fait, c'est ce que nous en faisons, donc collectivement. Donc, d'une part, n'hésitez pas à contribuer si vous voulez influencer sur la direction future du projet Inkscape, parce qu'on est assez accueillant, donc n'importe qui peut venir et essayer d'aider le projet, sachant que c'est vraiment un investissement en temps. Et Inkscape en soi, c'est plus un collectif anarchiste au sens auto-organisé. Et donc on décide nous-mêmes de dans quel sens on avance, et c'est un peu ça que ça veut dire. Et enfin, en petit complément sur les financements de projets, moi ce que je voudrais, c'est un petit peu un appel à aux entreprises ou aux collectivités publiques ou autres, de dire si vous utilisez Inkscape ou autre, la manière la plus simple et la plus pérenne de faire prospérer ces projets, c'est d'employer un contributeur sur des postes long terme, y compris à temps partiel, pour permettre aux gens de débloquer du temps pour participer à ces projets. Et je pense que c'est un modèle qui a de l'avenir sur comment aider les projets de logiciels libres en ayant des employeurs pour leurs contributeurs.
Si je peux parler, c'est un très bon point, je n'y ai pas pensé, mais ce que Marc vient de dire, c'est vrai, parce qu'on parlait des utilisateurs professionnels et de ça, mais on sait que dans les collectivités, il y en a énormément qui utilisent GIMP et Inkscape. Et donc, en fait, on sait que les gouvernements, ils aiment bien dire le logiciel libre, c'est bien, etc. Et à côté, ils font des contrats pour les logiciels propriétaires. Bah, c'est vrai que s'il y a des collectivités qui écoutent, ils peuvent mettre cet argent plutôt dans les logiciels libres qu'ils utilisent.
Eh ben, écoutez, plutôt appel lancé. En tout cas, je vous remercie. Donc, nos invités, Marc Jean Mougin et Géant Pagès, donc pour Inkscape GIMP. Toutes les références citées sont sur le site de l'émission libreavoue.org. Donc, vous pouvez les retrouver, et notamment les liens de financement participatif. Bah, écoutez, merci à vous deux et belle fin de journée.
Merci.
Merci beaucoup. Bonne journée.